Je viens de la RCA, République centrafricaine. Bon, j'ai quitté mon pays il y a cela environ 3 ans. Je suis passé par le Cameroun, le Nigeria, le Niger, la Libye, l'Algérie et enfin le Maroc. J'empruntais la voiture, parfois je marchais à pied. Je dormais à la Belle Étoile, la nourriture, bon. Il y avait quand même certaines personnes qui nous aidaient avec la nourriture en route. Parfois, quand on n'avait rien, on demandait de quoi manger ou bien en chemin pour aussi faire des petits travaux. Et on nous donne un peu d'argent et on continue la route.
Au départ, votre objectif, quel était-il? Où vouliez-vous arriver?
En principe, la Libye. D'après les journaux, quand on lisait, on parlait que le niveau de vie était un peu élevé en Libye, que les choses étaient assez bonnes, qu'il y avait assez d'emplois. Pour m'arriver là-bas, j'ai trouvé une autre réalité. S'il y avait le travail pour nous, ce n'était que le travail du manœuvrage et ces derniers temps. Ce qui fait que bon, j'ai décidé donc de me déplacer. Là, j'ai pris la direction du Maroc, passant via l'Algérie.
En Algérie, quelles difficultés avez-vous rencontrées?
En Algérie, bien sûr, ce qui m'a aussi dérangé, c'est le climat. Parce que là où j'ai vraiment connu l'hiver, j'ai commencé à dormir dans les ghettos. En Libye, j'ai dormi dans la maison. Des maisons de location. Moi, en Libye, on avait cette latitude de pouvoir nous faire louer des maisons. Tout le monde se réunissait, 15 ou 20 personnes, on pouvait louer une maison. En Algérie, ce n'était pas possible, puisqu'on n'avait pas de papier.
Et tout ce parcours que vous venez de me décrire, vous l'avez fait seul ou avec une famille, avec un groupe?
Je suis parti seul, mais je me suis fait des amis en route.
Est-ce qu'il y a une sorte d'entraide entre vous?
Il y a une entraide. J'ai vu ça assez en Libye, dans les villes. Bon, lorsque tu veux voyager, tu dis à quelqu'un que, bon, comme tu vois, je veux voyager. S'il y a quelqu'un qui a aussi l'intention de bouger et qui n'a pas assez de moyens, tu peux compléter, tu complètes ton argent de transport et vous faites chemin ensemble. Il y a une entraide. En forêt, il y a des gens qui ne s'expriment pas bien en français, hein, qui ont un problème, il y a un problème de communication, qui ne s'expriment qu'en leur dialecte. Bon, parfois, je perds des intermédiaires, des traducteurs.
Qui se trouve dans ces forêts? Ce sont essentiellement des hommes. Est-ce qu'il y a aussi des femmes et des enfants?
Il y a des hommes et des femmes, des enfants. On se regroupe généralement par affinité au niveau des coutumes, des tribus, des pays, peut-être même par affinité linguistique aussi.
Comment s'organise la vie?
On se lève à 4 h du matin parce qu'on ne sait pas si la police sera là, donc il faut déjà être aux aguets. On range ses effets. À 7 h, on se rend en ville, on fait de la charité. Ils se font attraper, tabasser, molester. Bon. S'il y a des décharges publiques, on va là-bas, on fouille pour avoir un peu de trucs à manger. Bien que nous sommes toujours menacés par les forces de l'ordre, on revient à l'après-midi, on fait la petite cuisine, on mange et bon. Le soir, on regarde si on peut sauter le grillage.
Qu'est-ce qui se passe quand des personnes sont arrêtées par la police au Maroc?
Quand vous êtes arrêté par la police, vous êtes refoulé à la frontière algérienne. En route, on a une double peur, non seulement celle de la police, mais aussi surtout celle des clochards, des délinquants, qui nous tapent dessus, qui arrachent nos biens. Si vous avez peut-être un bon article ou bien de l'argent, ils prennent.
D'après vous, les autorités, qu'elles soient marocaines, espagnoles ou même d'autres pays européens, comment pourraient-elles gérer au mieux ce problème donc de clandestins?
Le message que je peux donner aux autorités politiques de cesser la violence et qu'on devrait peut-être résoudre le problème à la base, améliorer un peu les conditions de vie des pays d'origine. Moi, je crois que c'est la solution pour éviter les déplacements.